midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Manuel Mariani. Comment allez-vous, Manu?
Ben, ça va pas mal. Ça va pas mal.
Pas mal. Chroniqueur culinaire, Manu.
Oui, on essaye.
C'est que j'ai dîné avec votre père. Ça va intéresser tout le monde.
Ah, c'est vous?
Non, ça va intéresser tout le monde. Mais j'ai dîné avec votre père.
C'est bien.
Les Mariani sont au moins deux.
C'est un minimum.
Et il est aussi peu bavard que vous.
Vous rigolez?
Oui, je rigole.
Je vois qu'il vous a pas saoulé, c'est bien.
Non. Fait pour me saouler, il en faut beaucoup, hein, je veux dire, franchement.
Je sais.
Non, j'ai passé un super.
J'ai une oreille géante.
J'ai passé un super moment avec Mariani Senior.
Vous voyez, j'étais pas là pour cause de Covid, mais vous avez pas perdu au change.
J'aurais mangé avec vous volontiers, mais manger avec votre père, c'était intéressant. Oui. Et votre papa, qui est dans le métier aussi, il est de la partie,
puisqu'il a
beaucoup bourlingué.
Un peu de bouteille.
Et il est passionnant parce qu'il a des tas d'anecdotes sur le métier, il connaît des grands chefs.
Ça, je vous confirme.
Et puis.
Mais voilà. Si vous redînez avec lui, vous racontez les mêmes anecdotes. Moi, je les connais par cœur.
Oui, mais enfin, je le lancerai sur autre chose. Bien, Manu. Je sais que vous êtes venu avec votre rouleau à pâtisserie aujourd'hui.
Ah, le mien, non. Mais le mien, non. C'est notre invité Mohamed qui est venu avec son rouleau à pâtisserie. Mohamed qui a été révélé par l'émission Le Meilleur Pâtissier, la saison 10. Hein. Il est allé jusqu'en demi-finale, au grand désespoir du public d'ailleurs, hein, qui le voyait bien arriver au bout. Et qui sort un livre, Tout le monde peut pâtisser, aux éditions M6. Bonjour Mohamed.
Bonjour l'équipe.
Bienvenue.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, on m'a beaucoup écrit sur les réseaux sociaux pour me dire quand est-ce qu'il vient, Mohamed. Donc, vous étiez très attendu par nos auditeurs et nos auditrices. Bon, qui peuvent nous appeler d'ailleurs s'ils ont des questions à vous poser au 01 53 48 3000. Et puis, on va parler de pâtisserie. Alors, de pâtisserie facile parce que c'est un peu votre créneau, quoi. Le but du jeu, c'est de montrer que si vous avez pu vous mettre à pâtisser et aller très loin dans cette émission, la pâtisserie, quelque part, c'est ouvert à tout le monde, parce qu'à la base, vous n'étiez pas du tout dans ce domaine-là.
Exactement. L'idée, là, sur ce livre, c'est de faire montrer que la pâtisserie, c'est accessible à tout le monde. Même si demain, on voit un gâteau, on se dit « Non, je ne suis pas pâtissier, je ne peux pas le faire. » Mais en fait, avec ce livre, j'ai créé des raccourcis pour que ça devienne accessible et ouvert à tout le monde.
Ouais, mais d'ailleurs, ce que vous expliquez, quand les gens se disent « Oui, non, je ne serais jamais capable de faire ça », c'est ce que vous disiez, vous, avant, au départ.
C'est
avant
ça,
de vous mettre à pâtisser pendant le Covid. D'ailleurs, c'est le Covid.
C'est ça.
C'est les bons côtés du Covid. Hein, ça a permis de révéler quelques talents.
C'est ça, exactement.
C'est pendant le Covid. Vous embêtiez un petit peu à la maison. Vous êtes dit « Allez hop, je vais pâtisser ».
C'est ça. Surtout le premier confinement, j'avais très très mal vécu. Et du coup, ça me permettait de libérer mon esprit sur d'autres choses. Parce que c'est compliqué d'être à la maison, de se réveiller le matin et de se dire, on ne sait pas qu'est-ce que. Là. Enfin, en fait, on ne savait pas qu'est-ce qui va devenir de notre vie, qu'est-ce que sera le lendemain. Ça, c'était très difficile à vivre pour moi personnellement.
Vous êtes quelqu'un d'actif en plus, vous êtes sportif, vous êtes motard.
Je suis hyper actif, je suis ambitieux, tout ce que vous voulez, mais d'être bloqué comme ça à la maison, c'est quelque chose que j'avais très mal vécu personnellement, sans avoir de vision un peu sur l'avenir. Et j'avoue que la pâtisserie, c'est ce qui m'avait aidé à libérer mon esprit et penser à autre chose. Et puis c'était aussi la période où du coup tous les chefs proposaient des astuces, des recettes pour la maison, etc. D'ailleurs, une grande majorité des Français se sont mis à cuisiner, à pâtisser.
Cyril Lignac, du meilleur pâtissier, qui faisait beaucoup de choses pendant le Covid.
C'est ça.
Pour inciter les gens à cuisiner, à pâtisser.
Exactement. Et puis, j'ai passé mon temps à faire des gâteaux. Franchement, je faisais des gâteaux tous les jours. J'ai pris 10 kilos pendant le confinement.
Je vous dis pas combien j'en ai pris.
Vous faisiez quoi comme métier au moment du confinement?
Moi, j'étais gestionnaire administratif, donc j'ai géré toute la partie administrative pour des sociétés à mon compte, en fait.
D'accord. Voilà. On est très loin de la pâtisserie.
Parce que c'est vrai que la pâtisserie a un côté un petit peu artistique, que vous n'avez pas dans ce métier administratif qui est le vôtre. Mais quand même, vous avez fait un CAP carrelage mosaïque. C'est un Ça, c'est quelque chose d'assez... parce que vous avez pas mal bourlingué. Hein. Vous avez fait plein de métiers. Oui, les études, c'était un peu chaotique hein, quand vous étiez jeune.
Exactement.
Carrelage mosaïque, c'est quand même un truc un peu artistique. Donc, est-ce que vous avez fait ça parce que vous étiez sensible à l'esthétisme des choses et c'est ce qui vous a mis un peu sur la voie de la pâtisserie
C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, c'est vrai que... Moi, l'école, c'était juste. Voilà, j'aimais pas l'école, clairement. J'arrivais pas. Mais tout ce qui était travaux manuels, donc tout ce qui était par exemple sciences, technologie, art plastique, tout ça, j'avais que des bonnes notes. Mais tout le reste, j'étais nul et j'aimais pas ça. Et du coup, après le collège, j'ai même pas réussi à avoir mon brevet, pour être honnête. Aucun lycée général ne voulait m'accepter. Et donc du coup, le seul lycée qui a dit oui, c'était un lycée professionnel.
Carrelage mosaïque.
Il y avait une place pour carrelage mosaïste.
Mais c'est pas une conseillère d'orientation qui a dit toi, tu feras. C'est où le jardin ou le carrelage.
Si, il y avait une conseillère d'orientation qui m'avait aidé
souvent,
justement.
Il y a la conseillère d'orientation qui est là pour.
Quand on a vu que il y avait aucun lycée qui voulait de moi, on s'est posé des questions. La conseillère, elle s'est dit je vais pas tester dans la rue, donc elle a tout fait pour me trouver quelque chose. Elle m'avait trouvé ça et j'ai dit pourquoi pas. Donc je suis parti, et bien, je me suis plu, j'ai eu des bonnes notes et voilà, hein, parce que c'était pas juste du carrelage, c'était voilà, carreleur mosaïque, donc je faisais même la mosaïque avec du carrelage, etc. Donc, et ça m'a beaucoup plu. Je me suis rendu compte que tout ce qui était manuel pour moi, c'était agréable et facile.
Oui, puis un côté un peu artistique.
C'est ça.
Parce que c'est vrai que bon, vous avez grandi dans une cité du Blanc-Mesnil, hein, très loin des pâtisseries, des vitrines chics, des pâtisseries des beaux quartiers. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes des quartiers qui cherchent encore leur voie? Est-ce qu'il y a de l'avenir pour tout le monde dans la pâtisserie, par exemple? Est-ce qu'il y a des prédispositions à avoir?
J'ai envie de leur dire que... pas que dans la pâtisserie, mais en fait, s'ils ont des rêves, ils doivent y aller, ils doivent les accomplir, et il faut pas qu'ils se posent de questions à penser à ce que l'autre va penser, etc. Parce que c'est ce que j'ai vécu, moi. J'avais des projets, j'avais des choses que je voulais faire, mais malheureusement, les fréquentations, etc., il y a des choses, vous pouvez pas trop en parler, ou qui sont un peu tabous, peut-être. Voilà, donc les gens, ils sont, voilà, au quartier, c'est dur. Les gens, ils ont pas la même vision.
Ouais, vous aimez pas le candidaton parce que vous expliquiez dans une interview que quand vous emmeniez votre femme dans des restaurants étoilés pour découvrir la haute gastronomie, vous le disiez pas à vos potes parce que selon vous, ils l'auraient pas compris.
Ouais,
mais qu'est-ce que les potes ils pensent de tout ça aujourd'hui avec le recul?
Ils découvrent un Mohamed qu'ils connaissaient pas en fait, hein, qui s'attendait pas, ils savaient même pas que je faisais des gâteaux même pour vous dire. Hein, ils savaient pas tout ça, cette passion. Enfin, ils savaient que j'étais passionné de bouffe, j'étais gourmand et j'étais toujours à la recherche de découvertes culinaires, mais pas à ce point-là.
Passer de l'autre côté du miroir.
Exactement. Et puis, encore il y a deux jours, j'ai rencontré un ami à moi, il m'a dit, quand je repense à l'émission, j'arrive jusqu'à maintenant, j'arrive pas à réaliser que c'est toi, en fait. C'est un truc de fou. Donc, non, mais voilà, il faut... Et je me dis, en fait, si j'avais su, j'aurais fait ça beaucoup plus tôt. Et c'est ce que je regrette, en fait. Et là, j'ai 34 ans, je vais vivre sur mes 35. Si je m'étais écouté, j'aurais fait ça depuis très longtemps.
Ouais, donc il y avait déjà des prédispositions.
Mais vous l'auriez pas fait de la même façon, en fait.
Ouais, sûrement.
C'est ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, c'est tout le parcours que vous avez fait avant qui fait que vous êtes un pâtissier original aussi.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous parce que
ça s'ajoute tout ça, en fait. C'est voilà. Vrai. Si vous aviez fait l'école de pâtisserie tout de suite après l'école, vous auriez été un excellent
pâtissier. Vous n'étiez pas mûr pour ça, oui. Excuse-moi, Philippe. Mais c'est vrai, vous n'étiez peut-être pas mûr pour ça parce que c'est énormément de précision, de rigueur, d'abnégation. Peut-être qu'à l'époque, justement, comme vous disiez, vous n'étiez pas un écolier très assidu. Peut-être que le moment n'était pas venu et que il fallait que vous passiez peut-être par une vie d'adulte avant d'avoir le déclic.
C'est ça. Et puis c'est pour ça que là aujourd'hui, je suis un autodidacte qui fait des choses selon mon inspiration. J'ai pas de limite dans ma pâtisserie, dans ma créativité. Je peux faire des choses très artistiques comme des choses très simples. En fait, voilà, c'est l'avantage aussi d'un autodidacte. Parce que c'est vrai que si j'avais suivi des études tout simplement de pâtisserie, j'aurais suivi des protocoles.
Vous seriez rentré dans le moule beaucoup plus tôt, comme on dit.
Ouais.
Alors vous avez un goût incroyable pour les trompe-l'œil. Ça, c'est un truc, ça vous branche vachement, les trompe-l'œil. On voit sur votre Instagram que vous aimez beaucoup faire ça, un abricot, des pistaches, qui étaient magnifiques d'ailleurs. Hein,
ouais, ouais.
bon, des grosses pistaches, hein, mais qu'on mange avec la coque. Hein.
C'est ça, voilà.
Ça vous vient d'où ce goût pour le trompe-l'œil? C'est une inspiration, Cédric Grolet ou d'autres chefs?
C'est clairement une inspiration de Cédric Grolet. J'avais vu une interview il n'y a pas longtemps de lui qui disait que lui, dans son travail, il sait qu'il inspire des gens. Et il n'a pas menti, parce que moi je suis le premier inspiré. Et c'est grâce à lui, à ses vidéos, que j'arrive à refaire à peu près la même chose. Je me challenge tout seul, je me dis, lui il l'a fait, bah, moi aussi j'ai envie de le faire. Et voilà.
Et quand tu vois tout le travail qu'il y a derrière ces vidéos, parce que c'est une industrie, hein, c'est énorme tout ce qu'il fait.
Ouais, c'est vrai.
Il y a une dame qui veut vous parler au 01 53 48 3000. Bonjour et bienvenue, on ne sait même pas qui vous êtes. Bonjour madame.
Allô?
Alors, quel est votre prénom?
Alors, c'est Malika, pour j'arrive plus à parler, je suis muée.
Ah, alors, bah, quand on parle à Manuel Mariani pour la première fois, moi, j'étais émue moi-même.
Non, non, je crois que c'est parce qu'elle parle à Mohamed. Bah, moi, j'ai mieux personne.
Oui, je voulais parler à Mohamed, je voulais vous parler à vous tous. En fait, c'est pour dire à Mohamed que c'est vrai ce qu'il a dit par rapport à la révélation de pendant le Covid. Parce que moi aussi, pendant le Covid, j'ai eu une révélation que j'aurais jamais cru atteindre ou quoi. Alors moi, c'est la peinture.
C'était la peinture, vous?
Oui, voilà. Je me suis mis à peindre juste pour occuper ma petite fille. En fait, ça révélait que j'ai un talent.
Comme quoi, finalement, ce confinement a révélé beaucoup de talents que les gens gardaient et révélaient chez eux.
Ça, c'est vrai. Et puis, il faut dire, il n'y a jamais, parce que moi, j'ai 55 ans, je peux vous dire, je regarde encore.
Oui. C'est beau ce que vous dites, Manika.
Beaucoup de révélations tardives, en tous les cas.
Bon, on vous fait un gros bisou, Manika.
Oui, c'est vrai. Et je rejoins Mohamed, parce que je lui dirais, franchement, c'est pas... C'est qu'il a ça dans le sens, il arrive à faire ce qu'il fait, c'est qu'il aime ce qu'il fait.
Bon, on a un problème de...
Et puis, il ne faut que jamais lâcher le bras, parce qu'en fait, c'est né à lui. Si je lui dis ça, parce que moi aussi, j'ai un talent de cuisine, aussi, je cuisine super bien. Et pour lui... je ne sais plus parler.
Bon.
En fait, je vous ai appelé plusieurs fois pour défendre le couscous marocain, déjà.
Alors, le couscous marocain, lequel? Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Hein.
Oui. un des couscous...
Il y a eu du concours du couscous marocain tunisien. Et ça m'a pris au trip parce que le couscous marocain est toujours imbattable. Bon. Et parce que je suis prête à vous prouver qu'il est imbattable.
Bon, vous savez qu'on peut parler de couscous tous les jours, mais aujourd'hui on va parler de pâtisserie, Malika. Donc je vous fais un gros bisou. On parlait de la pistache en trompe-l'œil que vous réalisez. Elle est incroyable, mais la pistache, c'est quelque chose que vous aimez particulièrement.
Bah, c'est la saveur de mon enfance. Hein. J'ai baigné dans ça. Je suis d'origine algérienne. Voilà, dans les pâtisseries, les baklawa, dans certaines recettes, on a souvent de la pistache. Voilà, en fait, surtout l'association pistache fleur d'oranger, c'est quelque chose qui me procure une émotion particulière.
Et il y a une deuxième chose que vous travaillez en pâtisserie que peu de gens travaillent, c'est la figue. Pourquoi c'est difficile à travailler la figue en pâtisserie?
En fait, les gens, ils ont peut-être peur d'oser. Ils ont peut-être peur d'oser. Je sais pas, mais. Ouais, c'est un fruit qui est un peu particulier. C'est une chair avec des graines.
Ouais.
On peut pas en faire un confit classique ou quoi que ce soit. Donc moi j'essaye de ne pas trop dénaturer la figue, voilà, qu'on retrouve vraiment
le goût
et surtout la texture aussi de la figue, parce que on peut pas faire grand chose avec la figue comme une purée de fruits classiques, quoi.
Ouais. Vous parlez de la pistache et de la figue comme les fruits de votre enfance.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on dit que derrière un pâtissier ou un cuisinier, il y a toujours une maman, sauf que vous avez perdu votre maman très jeune.
Ouais.
Par qui la transmission s'est faite? C'est une grand-mère, c'est une grande sœur qui cuisinait? Parce que c'est vrai qu'il y a forcément un moment, un déclic qui fait qu'on prend goût au fait, pas seulement de manger, mais de cuisiner aussi.
Moi, en fait, c'est... Moi personnellement, je connaissais pas trop le je vous cache pas la moi je Dans le quartier, on allait dans la boulangerie du coin, on allait dans les supermarchés, acheter des gâteaux, on se prenait pas la tête. Nous, le summum, c'était la Romainville. On était.
C'est ça, oui, la Romainville, déjà, c'était. Nous, voilà.
Et pour beaucoup, ça reste le summum. Hein.
Il y en a.
Des anniversaires d'entreprise.
Mais moi, même des fois, j'en ai goûté des fois dans des anniversaires, j'aime toujours. Hein. Personnellement, j'aime toujours. Mais bon, et un jour, j'ai voulu mettre le paquet pour l'anniversaire de ma femme, il y a presque 15 ans de ça, ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et je suis allé, on m'a proposé d'aller chez. Enfin, j'ai dit, c'est quoi le meilleur pâtissier sur Paris? Donc, on m'a dit, un ami à moi, il m'a dit, va chez Pierre Hermé. J'ai dit, ok. Donc, je suis allé chez Pierre Hermé et tout. J'ai vu le prix, je dis, j'ai cassé mon livret.
C'est
A,
pas la
l'époque.
Romainville.
Ah ouais, non,
enfin, c'est pas la même taille. Pour le même prix, t'as pas la même taille.
Pour le même prix, c'est pas le même prix. Donc, j'ai dit, bon, allez, c'est pas grave, on y va et tout. Et je me rappelle, j'avais pris trois gâteaux. J'avais pris une tarte à la vanille.
Bah, l'Ispahan déjà.
J'avais pris l'Ispahan et j'avais pris un gâteau au chocolat. Et bon, j'ai pris ça comme ça. Donc, j'ai posé ça dans le salon, tout ça. Ouais, c'est joli et tout. Et je me rappelle, j'ai mangé j'avais commencé par l'Ispahan. J'ai pris un morceau. Et en fait, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Ça m'a procuré une émotion. J'ai pas compris. Et vous voyez, moi je pensais qu'on pouvait retrouver de l'émotion dans l'adrénaline, dans la vitesse, dans l'amour peut-être, ou dans plein de choses, mais pas gustativement. Ça, c'était une découverte pour moi, d'avoir une émotion en mangeant, d'avoir du plaisir en mangeant comme ça. C'était la première fois. Et du coup, après, j'ai goûté juste après la tarte à la vanille. Alors là, je suis parti me coucher. Hein, je dis, allez, c'est bon.
En PLS.
C'est quoi ce truc, voilà. Et voilà, dès que j'ai découvert ça, je me suis intéressé. Je me suis dit, comment c'est possible? Donc après, j'ai commencé à faire, je suis parti dans un food tour. C'est-à-dire, j'allais dans la découverte de pâtissiers, de restaurants. Et j'étais toujours, en fait, à la recherche de cette émotion. Donc voilà d'où est venue ma passion pour la gastronomie et la cuisine.
Mais est-ce que vous pouvez la traduire, cette émotion, en mots? L'émotion peut procurer un gâteau. Il y a plein de gens qui doivent se dire, mais attends, moi, je mange des gâteaux, je trouve ça bon.
On sent que vous avez du mal à traduire vos émotions. Il y a une certaine pudeur chez vous.
Ouais, c'est
transparaire.
Ça. Ouais, sûrement. Ouais, je sais pas.
Parce que vous êtes clair, vous dites, ce gâteau traduit chez moi une énorme émotion que j'ai recherchée par la suite. Mais si on met des mots précis, c'était quoi? C'était plus que bon. C'était.
Ouais, voilà, ça a procuré un plaisir en fait. C'est en fait, c'est le mélange des textures, l'association des saveurs. C'est tout ça et le goût qui va faire qui va procurer une émotion quand on mange. Voilà, dès qu'on mange un gâteau bien équilibré et bien exécuté avec les saveurs, c'est-à-dire que ce soit l'acidité, la douceur, enfin, cette association là va créer une émotion. On va être là, on va manger, on va faire c'est waouh. Ouais, tu vois, c'est ça l'émotion en fait.
Mohamed de l'émission Le Meilleur Pâtissier, et maintenant avec son livre, hein, Manu qui vient nous présenter aujourd'hui.
Absolument, et son livre c'est Tout le monde peut pâtisser, il en est la preuve humaine, hein, puisqu'il est là avec nous après un très beau parcours dans l'émission Le Meilleur Pâtissier, et on va en parler, on va continuer à en parler juste après la pause. Et si vous avez des questions pour Mohamed, 01 53 48 3000.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Et pâtissons Manu aujourd'hui.
Oui, absolument, pâtissons. Alors moi je suis presque déjà dans les créations de Pâques, là je viens de recevoir un mail. La maison du chocolat prépare déjà Pâques, là, vous voyez. On reçoit des invitations pour Pâques, c'est dingue.
Bah, au mois d'août, on nous invite à manger la bûche, donc c'est un peu comme ça.
Aussi, ouais, ouais, absolument.
Comment ça fonctionne dans les maisons d'attachés de presse?
Non, mais c'est pour la presse magazine, hein, qui boucle.
Enfin,
deux mois avant, mais non, mais la bûche au mois d'août, hein, tous les ans on y a droit. Tous les ans on y a droit. Bon, allez, on est de retour avec Mohamed, demi-finaliste, le meilleur pâtissier saison 10. Là, on est à la saison 11, hein, je crois, Mohamed. Maintenant.
Elle est finie d'ailleurs.
Elle vient de se finir. Ouais. Ouais, d'ailleurs, parce qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, de votre timidité, une certaine pudeur, etc. C'est même pas vous qui vous êtes inscrit à l'émission de meilleur pâtissier, c'est votre épouse qui vous a inscrit. Est-ce que vous vous sentiez pas légitime ou pas encore prêt?
Justement, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier confinement, il y avait la saison 9, comme par hasard, alors que j'étais en plein dans les gâteaux. Et du coup, j'ai vu d'un autre œil. J'ai regardé toute la saison, mais vraiment avec attention. Et quand je les voyais faire, je me suis dit, je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. Mais voilà, de l'ombre à la lumière, pour moi, c'était compliqué. Il fallait qu'on me pousse.
Donc, et puis, voilà, ça veut dire quoi, qu'on vous pousse?
Bah, fallait me pousser parce que, bon, peut-être que je me voilais la face. Ma famille me disait, ouais, tes gâteaux sont super bons, c'est un truc de fou, etc. Mais peut-être que je me voile la face. Je me dis, peut-être que demain, si un chef y goûte, peut-être qu'il dira le contraire. Il dira, non, ça va pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Mais c'est vraiment votre femme qui vous a inscrit?
Ouais. C'est ça.
Et qui vous a poussé. Que je raconte des bêtises.
Non, mais on pourrait dire, tu vois, mais voilà, qui a dit vas-y, fais-le, non, qui vous a inscrit.
Ah ouais, c'est ça, ouais.
Parce qu'après, il faut y aller une fois qu'on est inscrit.
Ouais, après, j'ai été contacté. Je n'attendais pas à être contacté. Ça c'est bien, le feeling, il est bien passé. J'ai passé les auditions et voilà, sur 15 000 candidatures, j'ai fait partie des 20. C'était déjà pour moi une grande victoire. Hein. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Moi, je suis parti à la One Again quand on m'a appelé et tout. Hein. C'est pas possible, c'est. Franchement, je suis allé là-bas pour me faire plaisir en plus. Je m'attendais pas à être sélectionné, à faire partie du meilleur pâtissier, vraiment.
Ouais, peut-être qu'il y avait pas justement, il y avait pas d'enjeu pour vous. Vous y êtes allé vraiment.
Je suis allé, j'ai tout donné.
En roue libre et du coup.
C'est ça. Ouais, c'est peut-être ça qui a fait que.
Vous attendiez à rien, donc vous pouviez prétendre à tout.
Quoi. Exactement. Et je me rappelle même producteur. Après, j'avais fait un entretien avec le producteur pour qu'on fasse connaissance, etc. Et j'avais fait aussi. Tu vois, il te filme, il te pose des questions, etc. Donc il me disait, pourquoi ce serait toi le meilleur pâtissier, je m'en souviens. J'ai dit, pourquoi pas.
Oui, c'est ça.
et voilà, quoi. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'on m'appelle et qu'on me dise, ça y est, tu fais partie du meilleur pâtissier saison 10. Surtout, là, c'était la saison anniversaire. Ouais, donc pour moi, c'était important. J'ai dit, je ne voulais pas faire ni la 9, ni la 11, ni la 12. J'ai dit, je veux faire la 10.
C'est la bonne saison.
Rien d'autre. Ouais.
Et alors justement, moi je profite qu'on vous ait sur le plateau parce que moi je me suis toujours posé une question parce que bon, moi je cuisine un peu, mais ouais. Moi quand je fais de la pâtisserie, si j'ai pas un livre à côté avec les grammages, etc., je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et par contre, quand on voit les candidats pâtissiers sur le meilleur pâtissier, on a l'impression qu'ils ont tous les fiches techniques en tête, etc. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que vous avez quand même un temps avant chaque épreuve pour noter les grammages, etc. Parce que c'est vrai que même pour un pâtissier professionnel, ça paraît pas crédible, quoi. Sans trahir trop de secrets, mais là, franchement, je me suis vraiment beaucoup posé la question.
Je pourrais continuer à jouer sur ça en disant, voilà, on connaît tout par cœur, on se lance direct et tout. Malheureusement, je connais pas beaucoup de chefs, en tout cas, qui connaissent des recettes par cœur sur des entremets, des trucs comme ça, c'est impossible. Donc, non, on a nos notes en dessous du tablier. Et puis, de toute façon, il faut qu'on ait aussi, qu'on connaisse l'épreuve un petit peu avant pour qu'on puisse commander nos moules ou nos ingrédients, surtout des ingrédients spécifiques. Quand on utilise des fruits qui sont pas communs.
Je suis désolé pour les auditeurs qui trouvent que ça enlève du charme.
La magie de la télé, Manu.
Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez?
On a les recettes sous le tablier.
Ouais.
Ils s'en passent, hein, sous le tablier.
Non, pas sous le tablier, sous le plan de travail, pardon.
Sous le plan de travail, c'est mal exprimé, pardon. Oui, parce que je veux dire, là, tu sais comment.
Non, sous le plan de travail, pardon.
Oui, maintenant, vous les avez même d'ailleurs dans le livre de cuisine de Mohamed. Tout le monde peut pâtisser.
Ouais.
Alors c'est un mot c'est un verbe même dans le milieu de la gastronomie, hein, pâtisser, on l'utilisait pas beaucoup.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai que c'est un peu Mercotte qui a remis le terme pâtisser au goût du jour. Est-ce que vous attendiez à pâtisser un jour?
Non, pas du tout.
Parce que c'est vrai que quand on vous voit, vous êtes assez calme, assez posé. Maintenant quand on fouille un peu, quand on vous google à droite à gauche, ce que les gens savent un peu moins, c'est que vous êtes un biker passionné de moto, vous aimez les chiens un peu musclés, genre Doberman. Quand on voit la délicatesse de certaines de vos pâtisseries, on a un peu du mal à y croire. Est-ce que vous n'avez pas un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde?
c'est peut-être ce qui fait mon authenticité.
Le charme du pâtissier.
Voilà, c'est ça. C'est justement, peut-être qu'on est brusque au sport, dans la moto. Enfin, c'est des activités où là, on se déchaîne un peu. Et la pâtisserie, il faut un peu de plus de délicatesse.
C'est votre parenthèse enchantée.
Voilà, c'est ça.
D'ailleurs, après les meilleurs pâtissiers, vous êtes fait un petit road trip, la route 66 en Harley Davidson.
Ouais.
Aux États-Unis, on adore la pâtisserie, mais c'est pas exactement la même que la nôtre. Hein, elle est un peu plus mastoc. Ouais. On est plus dans le, je saurais même pas le qualifier.
Enfin, il y a du carotte cake, Manu.
Voilà, mais on n'est pas trop dans la finesse, hein, la pâtisserie américaine. Faut que ce soit fat, comme ils disent là-bas.
Franchement, ouais.
Est-ce que vous avez aimé malgré tout, ou est-ce que vous avez même dans le livre revisité un petit peu de pâtisserie américaine pour la rendre plus sexy et plus française?
Honnêtement, c'est pas près d'arriver. Je voulais me faire le road trip, route 66, c'était un rêve de gosse, parce que je fais de la moto depuis que j'ai de 10 ans. J'adore, c'est vraiment ma première passion jusqu'à maintenant. J'ai été très déçu, malheureusement, aux États-Unis. Ça a été un cauchemar. Clairement, sur la pâtisserie, je partageais mon aventure sur mes réseaux, story. J'allais découvrir à chaque fois des pâtisseries, j'allais goûter. C'était un cauchemar. En fait, ils sont sur une autre planète, les Américains. Mmh. On n'est pas du tout dans la même chose. Je vais même dans un.
Même à Chicago?
Bah, moi, je suis pas allé à Chicago, hein. J'étais sur la côte ouest.
D'accord. Côté Flagstaff, Arizona.
Los Angeles, San Diego, Las Vegas et tout ça. Et en fait, le problème, c'est que la population aux États-Unis, elle mange. En fait, là-bas, c'est pas que dans la pâtisserie, mais tout est riche.
Oui, et puis la quantité, la quantité compte souvent plus que la qualité.
C'est
quoi. Ça,
c'est très gras, c'est très sucré, c'est très salé, même dans le salé. Mmh. C'est-à-dire qu'ils mettent du sucre, beaucoup de sucre et beaucoup de gras. Moi, j'ai fait même de la rétention d'eau, hein, tellement mon corps, il n'arrivait pas. Je mangeais un repas.
Vous êtes rentré en PLS avec Europe Assistance?
J'ai avancé mon billet d'une semaine. Je devais rester plus longtemps. J'ai avancé mon billet d'une semaine. Je pouvais plus une nourriture. Parce que je mangeais un seul repas qui me restait dans l'estomac pendant 24 heures. J'arrivais pas à le digérer. Là, et la pâtisserie, c'est beaucoup de crème au beurre très riche, beaucoup de sucre. Et je suis même allé dans les pâtisseries françaises. J'ai même parlé avec quelqu'un qui travaillait là-bas. J'ai dit, mais c'est pas des pâtisseries françaises.
Non, ils s'adaptent au goût américain.
Exactement. Et ils m'ont dit, non, en fait, quand on a mis des pâtisseries françaises, ils ont dit que ça se vendait pas. C'était pas assez sucré, c'était pas assez. Voilà. Et du coup, ils ont adapté leur pâtisserie pour les Américains. Donc, ils les ont rendues très sucrées, avec beaucoup de couleurs vives et beaucoup de gras, quoi. Et là, ça se vend bien, ils me disent.
Mais j'ai l'impression que chez les jeunes aujourd'hui, et pas seulement dans le sucré, mais également dans le salé, j'ai l'impression que le modèle américain, malheureusement, il prend un peu. Parce que quand vous regardez des jeunes influenceurs food, eux, la qualité, ils s'en foutent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est de la quantité. Il faut que le cheddar dégouline. Faut qu'il y ait du coulis de machin, de la sauce truc. Enfin, vous voyez,
ouais.
J'ai l'impression, malheureusement, que cette part de la culture américaine a mieux pris dans la jeunesse que Pierre Hermé et Cédric Grolet. Vous voyez,
ouais. Mais, et pourtant, moi, j'aime beaucoup la street food. Hein. J'adore ça, la street food. Mais là-bas, j'ai été très déçu. Non, vraiment, je n'arrivais pas.
Même pas un cheesecake qui tire son épingle du jeu.
Rien du tout, franchement. J'ai demandé.
Un jour,
j'ai vu dans la carte. Mon ami me dit, ouais, vas-y, prends, on va tester. Je fais non, gâteau au chocolat, juste une part de gâteau au chocolat. Ils m'ont ramené un quart de gâteau layer cake. C'était un quart. C'était ça le dessert. Ça, tu le manges pour 4 personnes, ce truc.
Ah, ils aiment combien d'étages?
Il y avait 5 étages.
Mais non, mais c'est ça, il y a tout le
donc
temps.
Donc, ça veut dire un quart de gâteau. Tu vois, le gâteau layer cake, comme ça. Ils m'ont donné un quart, c'était une part pour eux. Je dis, mais je vais faire quoi avec ça? Et le serveur, il te balance de la sauce, il te balance de la chantilly et tout, en plus, pour couronner le tout. Ils sont vraiment dans un autre monde, vraiment.
Bon, alors, avec ce que viennent d'entendre les auditeurs, je pense qu'ils ont besoin d'une petite page de réclame pour digérer, Philippe.
on la réclame,
va trouver juste après. Voilà.
Et on retourne avec Mohamed et on va pâtisser jusqu'à 13h.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà, c'est un verbe qu'on décline ce matin. Pâtisser, Manu.
Eh oui, on pâtisse avec Mohamed. Mohamed, demi-finaliste de la saison 10 de l'émission Le Meilleur Pâtissier. Auteur du livre Tout le monde peut pâtisser. 128 pages, 15 euros seulement. Moi, je trouve ça super raisonnable. Donc, si vous cherchez des cadeaux à faire pour... pour Noël à votre épouse ou à votre mari pour qu'il vous fasse des bons gâteaux. Je pense que c'est une bonne idée.
C'est pas cher, c'est pas cher.
C'est pas cher.
C'est le prix d'un menu.
c'est le prix d'un mauvais menu dans un mauvais restaurant. Ouais.
Alors, on dit souvent que les. Alors, d'abord, ça marche bien. Hein. Le secteur des livres de pâtisserie, les livres de cuisine est un secteur qui se porte très très bien. Mais vous vous êtes aidé de livres finalement de chefs pour apprendre? Ou pas?
Non, moi j'ai appris avec Internet, sur les réseaux.
Avec des tutos?
Des vidéos, YouTube, tout ça. J'ai appris comme ça, petit à petit.
Ouais. Vous parlez du matériel de base dans votre livre. Par exemple, là, c'est la période des bûches de Noël. Si on n'a pas de moule à bûche, par quoi est-ce qu'on peut le remplacer, par exemple?
Juste avec un papier sulfuré, on peut faire un biscuit roulé.
Moi, je sais pas ce que c'est qu'un moule à bûche. Hein.
Alors, il y en a partout au téléachat.
Non, mais c'est un biscuit.
Au téléachat,
ça, c'est du marketing. Enfin, je veux dire, une bûche, c'est une génoise qu'on roule.
C'est ça. Et moi, voilà. J'ai deux recettes.
Si vous avez demain, vous avez un moule à bûche, Philippe. Hein.
Dans mon livre, j'ai deux recettes de bûche roulée, une façon forêt noire. Et une au citron, un relais citron.
C'était une de vos épreuves d'ailleurs. Vous êtes revenu faire une épreuve contre une ancienne aussi, une autre ancienne. C'était une forêt noire revisitée, il me semble. Hein.
Exactement.
Ouais, parce que alors, j'ai suivi moi le meilleur pâtissier, mais un peu en différé, parce qu'à l'heure où ça passe, moi je suis à table au restaurant en général. Et c'est vrai que j'ai vu, vous avez été éliminé en demi-finale de la saison 10. Malgré tout, moi, de ce que je voyais sur les réseaux sociaux, etc., vous étiez quand même le chouchou incontestable du public. On a l'impression que même cette popularité, après l'émission, vous l'avez presque mal vécu, puisque vous êtes quelqu'un qui est d'assez discret, assez réservé, et même quand on vient vous voir dans la rue pour vous parler, là encore, comme si vous vous sentiez pas légitime, pourquoi moi?
Ouais, c'est vrai. Après, honnêtement, les gens, ils ont une approche avec bienveillance. Ils sont pas là à faire les fous ou quoi que ce soit. Ils viennent avec respect. La plupart du temps, quand ils me voient avec mes enfants, des fois, ils osent même pas venir. Vraiment, les gens, ils sont très respectueux sur ça. Et j'ai remercié d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Ça m'est arrivé d'aller, je voulais juste aller acheter 2-3 articles à Carrefour, je suis à la caisse, on me dit, c'est pas toi, machin. Il y a 10 personnes qui arrivent, je vais faire une photo et tout. On n'est pas habitué à ça. Et puis moi, j'aime pas trop le spectacle comme ça.
Ouais, vous dites que vous voulez juste rester un gars du Blanc-Mesnil qui fait de la pâtisserie.
Tout simplement.
Vos enfants savaient que vous alliez participer à l'émission?
Oui, bien sûr. Ouais, parce que j'ai dû les quitter pendant 2 mois.
Hein. Vous en avez 4, ils sont de quel âge à quel âge, vos enfants?
Ça va de 5 ans à 12 ans.
Et vos amis savaient?
Non, personne ne savait. Personne.
Donc votre famille savait,
mais c'est ça.
Les autres ont découvert.
Exactement.
Ouais, beaucoup de vos amis ont découvert d'ailleurs que vous étiez dans l'émission, au début de l'émission. Ouais,
Ah, mais moi, la première émission, je recevais je me suis fait bombarder sur WhatsApp, je recevais toutes les captures d'écran. Tu m'expliques, machin.
Le tournage se fait à l'avance, c'est-à-dire que vous avez gardé le secret pendant super longtemps. Parce qu'entre le tournage et la diffusion, il y a eu, j'imagine, quelques mois ou au moins quelques semaines.
C'est ça. Après, j'ai prévenu quelques amis à moi aussi, parce que je sais qu'il y en a pas trop qui regardent la télé. J'aurais dit, mets la 6 en fait. À 21h, tu verras un truc et tout, tu vas rigoler. Là, ils ont été surpris, ils ont rien compris.
Ils ne vous voyaient pas du tout dans le rôle.
C'est ça. En plus, la première émission, elle était mythique. Hein. Moi, j'étais là, j'étais tout fier. Ouais, je vais faire le meilleur pâtissier. Première émission, on arrive, on est 20. D'habitude, on est 14. Là, on est 20. On voit des tentes dehors. Et on se dit, non, t'es pas encore le meilleur pâtissier. Tu dois faire tes preuves dehors. On avait 2 épreuves à faire. Alors, pâtisser dehors, t'imagines le truc de fou.
Avant d'intégrer le concours.
Intégrer le concours du pâtisser sous la tente. Et moi, pour me qualifier, tout ce que j'ai trouvé, c'est de faire le drapeau de l'Algérie en plus de la première épreuve. Donc, laisse tomber,
Le drapeau de l'Algérie, c'est toute une histoire.
C'est toute une histoire.
Même en gâteau. Vous l'avez appelé comment? Le 1-2-3
1-2-3, je l'avais appelé, ouais.
C'est vrai que si vous avez une pâtisserie, vous serez obligé de le faire.
Ouais, c'est vrai.
Moi, je vous le dis, ça va être le best-seller. Hein.
Grave.
J'y reviens, mais on a l'impression, enfin, quand on vous entend parler, à chaque fois que vous excusez presque d'avoir eu cet engouement de la part du public. Mais malgré tout, comme vous êtes quelqu'un de sportif, vous avez l'esprit de compétition. Est-ce que ça a été ça le truc qui vous a fait tenir et vous battre pendant la compète?
Moi à la base, je suis compétiteur et je fais pas une compétition si j'accepte pas la défaite. On est obligé, on peut pas faire une compétition dans cet esprit-là. Donc moi j'y suis allé, mais vraiment j'y suis allé en mode je me suis dit, si j'arrive à faire 6 semaines, je suis content, je suis très content, ça me va très bien. Le seul truc, quoi, je voulais pas me faire éliminer dès le premier truc, je me serais dit, j'y vais, je me suis affiché.
Ouais.
Et je suis arrivé jusqu'à 12 semaines.
Là, au Blanc-Ménine, ça aurait causé, non?
Ah ouais, non, ouais. Je serais juste parti foutre la honte, quoi, je me suis dit. Et je me serais dit, je ferai plus jamais de gâteau de ma vie, au moins c'est clair. Non, je suis arrivé à 12 semaines et encore, hein, 12 semaines, j'ai fait une erreur, j'ai cassé mon gâteau, je me suis dit, peut-être que j'aurais pu arriver à la finale si j'avais pas pété mon gâteau à la dernière seconde, enfin voilà, c'est... Mais bon, je suis fier de moi, je suis content.
Ouais, il y a des rebondissements souvent, hein. Il y a des gâteaux qui s'écroulent au démoulage, ouais. Il y a des candidats qui sont tellement mécontents de leur gâteau qu'ils le jettent à la poubelle.
Saison 10, ça a été exceptionnel.
Ah, ouais, non, c'est vrai qu'il y avait pas mal de rebondissements. Est-ce qu'il y a, bon, alors, c'est vrai qu'avec le montage, hein, qui est fait, parce que c'est vrai que quand on voit une épreuve qui dure une heure à la télé, en fait, il y a peut-être 3-4 heures d'épreuve, en réalité, donc il y a du montage derrière, et c'est vrai que le montage renforce cette tension, mais quand on est côté candidat, comment elle est cette tension? Est-ce que c'est de la bonne adrénaline ou est-ce que c'est un stress, c'est un poids, on a un nœud au ventre
C'est stressant, en plus. C'est ça la magie de la télé, c'est que quand on voit à la télé, on se rend pas compte en fait du dispositif autour.
Il y a une centaine
de personnes autour, hein, qui bossent, hein, pour nous. Dans la tente, on voit pas, mais il y a une quinzaine de caméras. Quand on pâtisse, on a un journaliste qui est à côté de nous, qui nous pose des questions pour nous faire parler, parce que si ça tiendrait qu'à nous, on parlerait pas. Et ça c'est un travail, hein. C'est-à-dire que faire des gâteaux, c'est une chose, mais c'est un exercice de répondre, parce qu'il faut expliquer. Mmh. Au début, on comprend pas, mais enfin, arrête de me saouler, je vais faire mon gâteau. Mais c'est en regardant la télé qu'on se dit, heureusement qu'on a joué le jeu, parce que les téléspectateurs comprendraient pas ce qu'on fait. Donc, et c'est pour ça que c'est important de jouer le jeu et d'expliquer pourquoi on fait
pourquoi
ça.
Quelle idée,
le pourquoi du comment, pourquoi il a brûlé, pourquoi on l'a raté. Et voilà, quoi.
Alors, le côté négatif des télécrochets culinaires comme ça, c'est que justement, avec le montage, les gens qui regardent, ça leur semble tellement facile, tellement simple. Ils se disent tous, oh, moi aussi je peux le faire. Et bon, après ils finissent chez Norbert Commis d'Office. Est-ce que bon, ou là il y a pas les meilleurs pâtissiers, mais les plus mauvais et les plus mauvais cuisiniers aussi. C'est vrai qu'il y a une la façon dont sont présentées ces émissions. Ça donne l'impression d'une telle facilité. On n'a pas. J'ai l'impression qu'on les gens sont pas conscients de tout le travail qu'il y a derrière, de la connaissance que ça demande, de la curiosité que ça demande.
Moi, le plus dur pour moi, c'était la gestion du temps. En plein tournage, quand on nous donne une épreuve pour faire un gâteau pendant 2 heures, alors que à la base chez moi, je mets 2 jours à faire un gâteau, là, on te donne deux heures. Mais c'est de la folie. On a l'impression c'est 20 minutes. Ça passe trop vite. Ça passe à une vitesse. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on a aussi des gâteaux qui sont pas aboutis. Et donc les gens, souvent, ils sont là et critiquent. Ouais, mais attends, c'est quoi ce gâteau? Ça ressemble. Ils oublient qu'en fait on l'a fait en 2 heures, quoi. C'est pas pareil, hein.
Même Lignac, hein, sur les directs qu'il fait en ce moment, on voit qu'il est pris par le temps, que souvent c'est pas abouti.
Ben bien sûr.
Il cuisine en duplex avec des bras cassés aussi. Hein,
ouais, mais quand même, tu sens que le temps c'est
bien
important.
Bien sûr.
Vous avez fini par rencontrer Pierre Hermé. Qu'est-ce qui vous a appris?
J'ai juste rencontré le temps de l'émission, quoi. Et quand il est venu à mon plan de travail, c'était une belle finalité pour moi. Je me suis dit, c'est lui qui m'a fait découvrir la pâtisserie à travers ses gâteaux, et je le rencontre et je lui fais goûter un gâteau. Mais pour moi, c'était une fierté de fou, en fait. Vraiment, c'était comme un rêve, en fait. Je me suis dit, Pierre Hermé, pour moi, c'est le boss, c'est le patron, Pierre Hermé. C'est simple, c'est le patron. Et de lui faire goûter un gâteau, c'était un honneur. C'était vraiment un honneur pour moi. J'étais très content.
Alors vous dites aussi que sur toute l'émission, l'une de vos plus grandes fiertés, c'est d'avoir eu un compliment de la part de la chef pâtissière de l'Élysée au cours d'une épreuve. Alors que c'est pas la chef pâtissière, c'est évidemment sans doute une très bonne chef pâtissière, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas la plus connue, c'est pas la plus médiatique. C'est quoi? C'est la reconnaissance du sommet de l'État.
C'est un peu ça. On parle de la chef pâtissière Christelle Bruyat, de chef pâtissière de l'Élysée, pas la boulangerie du coin là.
C'est pas la Romainville.
fait les gâteaux pour Emmanuel Macron. Elle fait pas les gâteaux pour
Emmanuel Macron, c'est ça.
Voilà, si vous voulez. Mais non, moi j'ai
des problèmes, Manu. Hein. Moi j'ai
kiffé. J'ai vu tout que des grands chefs. J'étais trop content. Non, moi j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé.
Mais vous les avez vus. Mais est-ce qu'ils vous apprennent des choses? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous allez gratter
Oui, oui.
Un peu de connaissances de technologie chez eux.
Bah, comme j'avais déjà dit pendant une interview, pour moi, le meilleur pâtissier, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux qu'un CAP, une formation CAP, parce que on est bah déjà, on nous pousse dans nos retranchements, dans notre créativité, et derrière, on a affaire à l'élite. Donc, et l'élite. Donc ces grands chefs pâtissiers, ils nous donnent aussi leurs petites astuces, leurs petits secrets, tout ça.
Ils les partagent. C'est ça. Je veux savoir s'ils les partagent ou s'il y a de la rétention d'informations.
Ils vont pas tout nous dire, mais en tout cas, ils nous donnent aussi des solutions des fois à des problèmes, où ils répondent aussi à des questions que nous on pensait connaître, mais ils disent non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Franchement j'ai appris beaucoup de choses grâce au chef pâtissier qu'on a rencontré pendant l'émission, et je suis rentré chez moi avec un sac à dos plein d'astuces, de techniques, d'idées, vraiment. Et on le voit entre mes gâteaux que je faisais avant de faire le meilleur pâtissier, et maintenant c'est le jour et la nuit, et c'est grâce à cette expérience que j'ai acquis pendant l'émission. Ça m'a beaucoup apporté.
Alors si on descend d'un niveau, parce que là on parlait de vos modèles, maintenant on va décaler d'un niveau, et parce qu'on a dit, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes père de quatre enfants. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes devenu un modèle pour vos enfants? Est-ce qu'ils pâtissaient avant? Est-ce qu'ils se sont mis à pâtisser depuis? Est-ce qu'ils aident papa à touiller avec le fouet ou à lécher la cuillère? On ne sait pas.
C'est plus des lécheurs de cuillère que des pâtissiers, je pense. Ouais. Non, pâtissier, c'est encore petit. Il y en a une grande. Après, j'ai la grande qui m'aide beaucoup, parce que bon, j'ai pris un peu de galon, donc je lui dis bon, maintenant, tiens, je lui donne la liste des ingrédients.
Il est commis à la maison.
Voilà, je lui dis bon, regarde, t'as les pesées, tu me prépares toutes les pesées. Et puis elle m'aide à faire des choses. J'ai la grande qui me donne des coups de main de temps en temps, parce que. Ouais, je me fais vieux, je crois.
Alors ça, on le dit jamais assez, et c'est vrai que c'est le gros défaut de tous les gens qui commencent la pâtisserie, c'est que on respecte pas les pesées, on se dit bon, il y a 10 grammes de plus, c'est pas grave et tout. Est-ce que à mesure qu'on fait de la pâtisserie, on finit par s'apercevoir que 10 grammes de sucre ou 10 grammes de farine sur certaines préparations, sur certains appareils, comme on dit, ça peut changer du tout au tout. Est-ce que
Ça peut changer du tout au tout quand on parle de gélifiant ou par exemple de levure. Mais le reste, non, que vous avez 5-10 grammes de sucre en plus ou 5-10 grammes de plus de farine, pour moi, je vois pas la différence. C'est surtout il faut être très précis, c'est sur les gélifiants, sur les colorants, sur les arômes. Là, on peut pas rajouter 5-10 grammes de plus. C'est pas pareil. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris à gélifier justement au meilleur pâtissier. J'ai appris les gélifiants au meilleur pâtissier, par exemple. C'est ça. Bah, j'ai appris les bonnes proportions. Je les ai appris au meilleur pâtissier. Parce qu'avant, à la maison, gélifier. Mais tu prends mon entremets, vous prenez l'insert. C'était une langue de bœuf, en fait, le truc. C'était complètement collé. Alors qu'en fait, là-bas, j'ai appris qu'un insert, faut que ça soit comme une mousse, en fait. Faut que ça suive.
Faut que ça se tienne, mais faut que ça soit
insert. Voilà. Exactement.
Bien. On arrive à l'époque des fêtes de fin d'année, donc pour ceux qui cherchent des idées, par exemple de bûches, hein, il y a votre roulé au citron, hein, magnifique.
C'est ça.
Roulé au citron, forêt noire roulée.
C'est ça, hein, aussi.
C'est l'équivalent. Pas mal de choses. Vous mettez du mascarpone, vous, dans la chantilly.
Ouais. C'est je trouve que ça a une meilleure texture.
Ouais, ça lui donne un peu de corps, un petit peu de crème.
C'est ça, ça donne un peu plus de texture, un peu plus de tenue. Donc, moi je mets toujours du mascarpone.
Bon, il y a des recettes tout niveau quand même. Il y a des très faciles et des peut-être un peu moins faciles quand même. Le millefeuille, vous voyez, la galette des rois.
En fait, ça a l'air difficile, mais en fait, quand on suit ma recette,
c'est
en fait, justement, j'ai fait des raccourcis pour que ça reste simple. C'est limite. Vous mettez tous les ingrédients dans un récipient, vous les mélangez et puis basta, quoi.
Follow the process.
Voilà.
On rappelle le titre du livre, Manu.
Oui, Philippe, le meilleur pâtissier. Non, pardon, tout le monde peut pâtisser. Le meilleur pâtissier, c'est
du l'édition. Meilleur pâtissier. Ouais.
Tout le monde peut pâtisser. Donc 128 pages, 15 euros chez M6 Éditions. C'est un livre très sympa si vous cherchez encore des cadeaux à acheter pour Noël ou même pour vous, pour pâtisser. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Mohamed, vous pouvez aller sur son Instagram, Mohamed-8LMP10. Voilà, et si vous voulez les coordonnées du livre, si vous les avez oubliées, vous allez sur mon Instagram, mariani.manuel.
C'est un plaisir de vous rencontrer.
Moi aussi.
Voilà.
Très grand plaisir.
On voit, les grands sont sympas. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net.
Et on se voit pas la semaine prochaine, parce qu'on, nous, on part aider le Père Noël à emballer les cadeaux.
C'est vrai. C'est vrai. On part au ski avec Maître Serran, c'est pour ça.
C'est ça.
Et on vous dit à la semaine d'après. Très bon week-end sur beurrefm.
Au revoir, à bientôt.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.